Bonsoir et bienvenue dans Absence, une émission qui parle de musique contemporaine sur les ondes de Radio Campus 93.9. Si vous ne reconnaissez pas la douce voix familière de Michael, c'est normal, puisque c'est moi, donc Lorraine, qui va animer l'émission ce soir, mais pas d'inquiétude, il ne nous a pas abandonnés. Aujourd'hui, on va échanger avec Sophie Avramidou, qui est compositrice, chanteuse, joueuse de oud et qui est d'origine grecque. Elle est installée à Paris, mais malheureusement ce soir, elle ne pourra pas être avec nous au studio, donc on va la recevoir mais à distance, on va l'appeler dans quelques instants. Je suis aussi avec Michael, donc le voilà,
salut.
Il est de retour.
Ma grosse voix ténébreuse.
Donc compositeur, homme de radio, qui sera mon chroniqueur pour ce soir.
Exactement.
Et qui va nous parler de Boulez à l'occasion du centenaire de sa naissance, parce que quand même on va pas passer à côté de cet anniversaire. Et on est aussi avec Marie-Lou à la réalisation. Et on va commencer par écouter une pièce de Sophie Avramidou, qui a été composée en 2014 et revue en 2022 à partir d'un vers du Cid. Donc la pièce s'appelle « Scène sixième » de Sophie Avramidou pour flûte seule. Elle est ici interprétée par André Biagini. Et donc la pièce est composée à partir d'un vers de la pièce de théâtre de Corneille « Le Cid ». Je vous dis le vers. Le conte est donc si vain et si peu raisonnable, ose-t-il croire encore son crime pardonnable ?
Le comte de Don Juan. Juan. Est super raisonnable. Juan. Ose-t-il croire encore? Et donc, Sivan, les contes.
Bonjour Sophia, est-ce que...
Bonjour.
Ah ben on est ravis de vous avoir à l'émission.
Merci beaucoup pour m'avoir invitée.
Donc on a écouté votre pièce scène sixième pour flûte seule. Et on va quand même vous présenter un peu. Vous êtes compositrice, interprète, vous avez composé de la musique de film, de la musique pour l'Orchestre National du Jazz, pour l'ensemble intercontemporain. Vous avez étudié la musique byzantine. Est-ce que j'oublie des choses ?
Bah, en gros, non. Je pense que vous avez tout dit.
Okay.
J'ai fait aussi mes études en Italie,
ouais.
Juste après la Grèce, où j'ai fini mon master à la composition à la classe de Iva Fedele. Et jusqu'à après, j'ai fait l'IRCAM, le cursus d'IRCAM.
Ok. Oui, donc vous avez une formation très internationale, puisque donc vous avez commencé en Grèce à l'université Aristote à Thessalonique. Ensuite, vous nous avez dit en Italie,
tout
à l'IRCAM.
Fait, oui.
Est-ce que vous avez trouvé des approches très différentes de la composition dans ces différents pays, ou est-ce que c'était un enseignement plutôt uniforme ?
Oui, et surtout sur l'esthétique. Et je pense que j'ai commencé à trouver, si je peux dire ça déjà, à trouver moi-même quand je suis venue à Paris, en expérimentant avec des musiciens et des ensembles, et surtout quand j'ai fait l'IRCAM, que c'est là que ma perception sur les sons en général est complètement changée. Et aussi la perception du son acoustique. Donc voilà.
Okay. Puisque l'IRCAM, c'est aussi un endroit où on apprend à se servir de l'électronique musicale.
Ah oui, c'est énormément.
Ouais, c'est un peu la DA. C'est quelque chose dont vous êtes servi dans vos pièces. Quelle place vous accordez à cet instrument de musique qui n'en est pas vraiment, en fait? Comment vous servez de l'électronique musicale? Ça représente quoi pour vous?
Bah, surtout, comme je vous ai déjà dit, c'est pour moi vraiment une perception du son général,
oui.
Le son acoustique. Donc, dès que plus j'approfondis en son électronique, c'est là que j'ai compris la nature du son acoustique. Et aujourd'hui, aussi parce qu'il y a beaucoup, mais pas vraiment dans une façon plus scientifique. Parfois aussi, j'utilise aussi plusieurs choses, mais plutôt en expérimentant avec mes oreilles. C'est quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup dans la tradition grecque, la musique traditionnelle, j'utilisais beaucoup on utilise beaucoup l'instinct et l'intuition. Donc je pense que je suis formée par les deux. Et voilà, l'électronique aujourd'hui, c'est très important pour moi, mais surtout, percevoir les sons en général. Sur l'orchestration de mes pièces instrumentales, par exemple, je pense toujours, j'ai toujours, parfois, si vous voulez, je fais aussi mes sketchs sont de choses complètement électroniques qui me guident pour composer.
Ok. Et si on remonte un peu avant dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené vers la composition? Parce que du coup, j'ai compris que vous aviez étudié l'interprétation, la musique traditionnelle grecque aussi. Comment vous êtes retrouvée à composer aussi?
Oui, justement, parce que je voulais faire ma musique, j'ai commencé à faire des arrangements, beaucoup des arrangements avec des ensembles avec qui je collaborais en tant que chanteuse en Grèce. Et donc, je commençais à faire les arrangements. Je voulais toujours changer, mettre mon esthétique, de changer le son. En expérimentant avec les musiciens, etc. Et voilà, c'est là que j'ai pris la décision de faire la composition. Mais j'ai commencé vraiment par une autre parcours.
Oui, vous avez été plutôt interprète avant.
Oui.
Ok. Et justement, dans vos compositions, là, on a entendu Scène 6e, qui est composée à partir d'un vers du Cid, donc la pièce de théâtre de Corneille. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent ce rapport à la littérature dans votre travail. J'ai vu qu'il y avait des pièces en lien avec les mythes grecs, en lien avec Alice au Pays des Merveilles. Comment vous intégrez tout cet imaginaire dans votre travail? Comment vous faites dialoguer la musique et la littérature?
La plupart de ma musique s'est inspirée par la littérature, surtout la littérature fantastique, j'adore, ou la mythologie. Sur la mythologie grecque, par exemple, j'ai fait une pièce qui s'appelle Géranomachie. C'était une collaboration avec l'ensemble intercontemporain et l'IRCAM. Et voilà, je suis toujours influencée par la littérature, les pièces de théâtre, les mythes, les contes de fées. J'adore le frère Grimm. Et c'est toujours parce qu'il y a de sont composés d'éléments et des émotions très contradictoires et voilà, ils sont surréalistes ou cyniques et purs en même temps, et très violentes, sarcastiques. Et dans mon côté, je me demande comment je pourrais tout ça, le transformer au son et, comme une hybridation entre l'imagination et que j'essaye instinctivement de leur donner un corps sonore.
Ok. Et justement, il y a aussi un peu le côté sonore de la parole qu'on a pu entendre dans la première pièce, vu qu'il y a les mots du théâtre qui sont récités par le flûtiste. Est-ce que ce travail avec la langue aussi, avec la sonorité des mots, c'est quelque chose qui vous parle? C'est quelque chose que vous avez voulu creuser?
Pour cette pièce, oui. J'ajoute la voix, ça fait partie de la structure musicale de pièce, parce que ça vient petit à petit. On commence avec les flûtes, des gestes instrumentaux, qui après, c'est la voix qui prend le même geste. Et donc, ce n'est pas vraiment la voix, c'est la voix entre l'instrument. Donc, j'utilise beaucoup de fois, j'utilise les instruments comme des résonateurs. comme le flûte, par exemple, dans cette pièce. Mais en général, dans cette époque, cette pièce est écrite en 2014, je faisais beaucoup le théâtre musical. Donc, de la musique pour des solistes qui font aussi le théâtre. Par exemple, j'ai fait le 2017, j'ai fait une pièce pour solo cello qui s'appelle La légende de Saint-Martin. La légende Saint-Martin. Et c'est aussi, je peux dire que c'est une série de pièces. Et j'ai fait aussi une pièce pour harpe. Donc, le CID, la pièce pour solo flûte, il fait partie de cette série de théâtre musical pour solistes.
Ok. Et donc, vous disiez qu'en 2017, vous étiez, enfin, à cette époque-là, vous écriviez pas mal pour le théâtre musical. Est-ce que vous avez l'impression que vos ambitions, votre écriture a beaucoup évolué depuis ? Est-ce que ça a été marqué par cette période ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment différent que vous développez maintenant ?
Je pense que c'est vraiment, oui, c'est, si vous écoutez mes vieilles pièces, on peut vraiment voir l'évolution. Et là, moi, je vois que j'avais toujours les mêmes les idées, mais peut-être les façons, comment j'orchestrais la musique, c'était différent. Mais oui. L'aspect théâtral, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même aujourd'hui. Et je viens de faire une pièce pour la Philharmonie de Paris l'année dernière sur Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et là, c'était vraiment la musique, c'était un vrai théâtre musical. C'était avec la mise en scène, avec les marionnettistes. Et donc voilà, c'était quelque chose que je cherchais peut-être même... entre la musique instrumentale, mais ce n'est pas encore très clair. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le théâtre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'essaie de donner toujours cet aspect dans ma musique.
Ok. Eh ben, on va écouter une autre de vos pièces. Après, vous pourrez nous en dire un peu plus sur... ce par quoi elle a été inspirée, ce qui a résonné pour vous. Et donc cette pièce s'appelle A Hug to Die pour 8 musiciens. Et là, elle est interprétée par l'ensemble intercontemporain avec Dylan Corley à la direction. Et j'ai pas la date, mais 2023.
Ça, c'était, je crois que c'était le 2023, c'était au Mégaron d'Athènes. Mais la première de cette pièce, c'était au Festival Ensemble 2000. Toujours 2023.
Ouais. Ben on va l'écouter.
Et on vous reprend tout de suite après.
Et c'était A Hug to Die, interprété par les musiciens de l'ensemble intercontemporain et composé par Sophia Avramidou. Et là, c'était la deuxième interprétation publique en 2023. Sophia, est-ce que vous nous entendez toujours ?
Oui.
Ok, super. Donc dans cette pièce, on entend des sons assez inédits. On se demandait un peu comment vous aviez réussi à créer ces sons qui sortent de l'ordinaire.
Ah, ça c'était... ça c'est mon secret. C'était... Non, mais c'est... Je me suis amusée à explorer un peu les percussions. Et là, j'ai trouvé une chose que j'adorais avec un Walt Eiffel. Vous parlez de ça, je crois, non ? De le son, le grand masse au final de la pièce qui existe toujours comme un élément structurel,
oui.
Sur toute la pièce.
Mm.
Voilà, c'était vraiment avec une petite Walt Eiffel en archer, que normalement on ne joue pas le Walt Eiffel avec un archer.
Oui.
Mais il y a cette petite corde qui est, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui peut sortir si j'utilise un archer ? Et là, c'est sorti ça. Et vous vous imaginez, si vous avez 8 Walt Eiffel de différentes tailles, c'est, voilà.
Oui.
C'était vraiment, j'ai trouvé cette son impressionnante. C'est comme une machine énorme. Et c'était ça que j'avais comme image dans ma tête à l'époque. Et voilà, cette pièce est inspirée par une pièce de théâtre que j'adore. Elle s'appelle The Peel Woman. Et c'est de Martin McDonagh. Et encore une fois, c'est une pièce qui navigue entre l'équilibre et le déséquilibre. Une dramaturgie avec plein de contrastes et de transitions continues. Et toujours aussi l'exploration, le développement de timbre.
Mm.
Voilà.
Et moi, j'avais une petite question pour vous.
Ouais.
Cette pièce, donc, elle a été jouée par l'ensemble intercontemporain. Comment ça s'est passé, la description de la musique et le travail avec la musique, avec vous, avec cet ensemble ? Parce que c'est l'ensemble de musique française. Bon, on sait qu'ils jouent beaucoup de compositeurs et de compositrices qui sont de nationalités différentes. Mais comment ça s'est passé, un petit peu, vous pouvez nous raconter ?
Cette collaboration ou en général
en général, oui, en général, c'est très bien.
Mais je pense que tous les compositeurs qui collaborent avec des ensembles si forts, ils ont vraiment la chance parce que si on apprend, c'est par les musiciens. Mm. Et pour moi, c'est ultra important d'être en contact avec les musiciens, pas justement pour qu'ils jouent ma pièce, mais voilà, même par exemple pour Alice, dont je vous ai parlé avant, Alice au Pays des Merveilles, j'avais des sessions avec les musiciens. Donc c'est vrai,
ouais.
Tu écris pour chacun de eux. Ils sont des solistes, c'est pas un ensemble, c'est vraiment un ensemble, ouais. Fait par les solistes. Et c'est très, très, très important. Ils sont vraiment très sensibles. Sur le geste timbral, sur le geste instrumental, l'articulation du geste. Donc, pour moi, c'est une grande opportunité de travailler,
ouais.
Avec eux.
Et finalement, vous, quand vous travaillez avec ces musiciens, ça vous arrive de beaucoup modifier vos partitions pendant les répétitions ?
Je peux dire pas vraiment mes idées.
Ouais.
Les idées sont toujours là. Mais si vous voulez, oui, il y a chacun d'eux, il y a sa librairie de notations, de sons. Et donc, c'est ultra important aussi d'être consciente de chaque chose et de savoir comment la faire et comment l'écrire aussi. Et voilà, la notation, l'écriture, c'est aussi très, très important. Et donc, moi, j'ai appris aussi beaucoup par rapport à ça, avec l'ensemble. J'ai compris que beaucoup de choses ne sont pas obligatoires. Nous, compositeurs, on pense qu'il faut vraiment définir tout. Et parfois on entre dans le détail quand ce n'est pas vraiment nécessaire. Moi, je suis personnellement contre ça. Et je pense qu'il y a... il y a certaines choses, par exemple, que les musiciens, ils savent mieux faire et qui peut te proposer des choses. Par contre, si tu as déjà très fermé dans ta tête et à un niveau technique, tu ne vas jamais arriver à toucher cette, voilà, cette fragilité de geste instrumental.
Super, merci beaucoup.
Et justement, vous êtes aussi interprète, donc vous avez cette double casquette. Comment ça interagit dans votre travail ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce que c'est deux choses séparées ?
Moi, j'ai fait la musique traditionnelle, qui c'est déjà complètement différent. Le principe, c'est pas le même. Mais comme j'ai dit déjà, ça me donne beaucoup de liberté en tant que compositrice aussi. Je pense qu'ils sont attachés les deux, parce que la maîtrise écrite et aussi l'improvisation sont voilà sont pour moi, c'est, je ne sais pas comment vous dites en français, le visage, le deux visages de la même
De la même pièce.
Oui, les deux faces de la même pièce.
Bien par la tradition écrite, quand j'improvise, mais quand j'ai fait la musique, quand j'écris la musique, dans ma tête, j'improvise énormément.
Et d'ailleurs, ce rapport à l'improvisation, dans les notations, est-ce que ça vous arrive d'explorer des notations purement graphiques ? Des choses comme ça, non ?
Ah, pardon, j'ai répondu déjà avant que vous avez fini la question. Mais je veux dire, non, j'ai pas vraiment les systèmes d'improvisation, si vous avez demandé ça, mais j'ai beaucoup de choses graphiques, mais je suis très précise dans mon écriture. Quand je parle de l'improvisation, vous pouvez être très précise en tant que compositeur. Un compositeur, mais il est, c'est au-delà de l'écriture pour moi. C'est vraiment c'est l'esprit, c'est l'imagination. Moi, comme j'ai dit, j'ai toujours les images poétiques que j'essaie de suivre, et toujours de donner quelque chose, voilà, de le transformer. C'est pour ça que j'ai dit toujours hybridation. Hybridation entre la littérature et la musique. Et voilà, c'est ça l'improvisation, l'improviser. C'est pas par rapport à la note. J'aime pas vraiment le système.
Ouais, je comprends.
Voilà.
Et en parlant de texte, justement, est-ce que vous, en tant que compositrice de musique, est-ce que ça vous arrive d'écrire des textes, de la poésie, ou est-ce que ça va venir ?
Non, quand j'étais plus jeune, pas aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me. Mais j'utilise beaucoup des textes déjà écrits par des poètes ou le pièce de théâtre.
D'accord, super. Et bien, je propose qu'on écoute, si ça te va, Laurie.
Ouais, tout à fait. On va écouter la troisième pièce qu'on a prévue, qui est donc Métallage, qui a été jouée au Festival de Royaumont en 2020 par l'ensemble Musique Fabrique, dirigé par Mariano Chiacchiarini.
C'est correct.
Merci. Thank you.
Donc on a entendu la pièce Métallage de Sophia Avramidou, interprétée au Festival de Royaumont en 2020 par l'ensemble Musique Fabrique. On a entendu qu'il y avait plein de timbres particuliers. On a parlé de votre recherche sur le timbre et de votre rapport aux instruments acoustiques influencés par aussi l'électronique. Est-ce que vous avez quels sont vos instruments de prédilection?
Pardon, je n'ai pas entendu la question.
C'est quoi les instruments que vous préférez, avec lesquels vous préférez travailler?
Pour cette pièce, en général?
En général, ou pour cette pièce, les deux?
Je dirais, je n'ai pas de préférence. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé pour des cordes, par exemple. Ça, je veux dire que pour cette pièce... par rapport à la question que vous m'avez fait avant, et cette pièce c'était vraiment quand j'étais arrivée c'était à Royaumont, je pense que c'était le 2019, c'est après Cursus, le 2020. Ouais. Et donc c'était pendant le festival de Royaumont et avec Musique Fabrique, et là c'était la première fois dans ma vie que j'étais en face un ensemble à tel niveau. Et donc là j'étais un peu paralysée, mais en même temps j'avais vraiment envie de découvrir, de développer mon langage, mes idées. Et je peux dire qu'une grande partie de cette pièce était écrite là à Royaumont. Vraiment, c'était un processus très dynamique, très productif, très créatif, en échangeant avec le musicien et toute l'équipe artistique. Et l'idée de cette pièce était, je pense que c'est très clair, c'est l'idée de la boucle, toute cette structure rythmique répétitive et récursive par exemple, entre la texture, parfois utilisant un son beaucoup plus texturé et élaboré, etc. Et la deuxième partie avec la harmonisation du timbre. Et voilà.
Ok. Et je trouve qu'on entend aussi dans votre musique beaucoup l'idée du souffle. Et vous êtes chanteuse, on l'a déjà dit. Est-ce que c'est quelque chose qui aussi résonne avec ce que vous composez, cette idée de souffle, de son un peu granuleux? On a parlé de ça aussi.
Oui, c'est une belle question, et c'est vrai. Et j'utilise beaucoup le souffle en général et l'orchestration de l'air, de différentes, comme vous avez dit, textures granulées, parfois en utilisant les textes aussi comme des résonateurs. J'utilise les instruments comme les résonateurs, et je me demande toujours comment je peux moduler encore plus les sons, encore plus les sons aériens. Pardon. Donc oui, je pense que c'est relatif aussi à, comme je dans ma tête je chante toujours la musique, c'est aussi relatif aussi à la voix, je crois.
Ok, c'est vraiment très intéressant, et on est ravis d'avoir pu vous recevoir dans Absence ce soir. Donc merci beaucoup Sophia Avramidou.
Merci beaucoup.
J'aurais peut-être une dernière question. Où est-ce qu'on peut écouter vos musiques prochainement? Est-ce qu'il y a des pièces en cours? Est-ce qu'il y a des répétitions en cours? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Ou des concerts de prévus?
Et tout d'abord, je veux vous remercier pour l'invitation. Et c'était la première fois que j'ai fait une interview live. C'était un peu stressant pour moi.
Oui, en plus au téléphone. Et les moyens techniques. Qui sont les moyens techniques?
Mais c'était très bien passé. Je suis toujours stressée pour mon français, mais bref. Pour les prochains projets, merci pour la question. Et je suis au train là de composer une pièce pour grand orchestre, Orchestre 3, pour l'ONF, l'Orchestre National de France. Et ça fait partie du festival Présence 2026. Toujours pour le même festival, j'ai une pièce pour voix, ma voix, contrebasse et électronique. Et c'est pour un mot duo qui s'appelle Dimorphos. Je suis la chanteuse et la compositrice. Ça, par exemple, c'est un projet qui, entre la musique traditionnelle, l'improvisation, c'est vraiment multidimensionnel. Et la tradition écrite aussi. Contrebassiste Nicolas Cross, et le soliste de l'ensemble contemporain. Et après, je sais pas si je peux annoncer que je vais le dire. Je suis compositrice. Je suis actuellement compositrice en résidence à l'Opéra de Bordeaux. Et donc il y a plein de projets qui vont venir pour la saison 2025 jusqu'en 2027. On a aussi un concert le 6 septembre au Festival Ravel où je vais chanter toujours avec ce duo Dimorphos avec Nicolas Cross et moi. Et je pense qu'il y a autre chose que j'oublie.
Et de toute façon, il faudra vous réinviter en vrai dans nos studios.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
On a hâte d'entendre tout ça en tout cas. Merci beaucoup, Sophia.
Merci à vous. À bientôt.
Et maintenant, on va entendre, pour finir, la chronique de Mickaël sur Boulez.
Génial. Alors, je préviens, je l'ai écrite. Je ne l'ai pas relu. Et coucou, dans cette chronique sur Boulez, on fête le centenaire de sa naissance cette année. Et c'est la première fois qu'on en parle en une saison. Va-t-on être censuré? Interdit de continuer notre émission l'année prochaine? Retrouver une tête de cheval dans mon lit? Je ne pense pas, car je crois que les directeurs d'antenne de Radio Campus Paris ne connaissent pas ce nom. Pierre Boulez, aka Boulez, aka Bouboule, aka Pierrot le Fou. Récemment, une amie m'a demandé « Mais t'en penses quoi de Boulez ? J'ai des amis qui le vénèrent et d'autres, la majorité, soyons honnêtes, qui le détestent. » Je vais donc, en tant que compositeur, programmateur, auditeur et fainéant, essayer de vous donner mon avis. Un de mes profs de cœur, au fil d'une discussion sur le personnage, m'avait dit « On parle du compositeur, on parle du chef d'orchestre ou du politicien ?» Doit-on donc séparer l'homme du compositeur, du chef d'orchestre, du politicien ? Non, je ne pense pas qu'on doit séparer tout ça. Ça ferait bien trop de petites bouboules sur Terre en train de jeter des amandes dès qu'on fait de la musique atonale. Donc disons-le, c'était un con selon certains, et peut-être selon moi, un peu moins con selon d'autres, et peut-être pour moi, très bon chef d'orchestre selon tout le monde, un compositeur horrible selon la majeure partie des gens, un compositeur révolutionnaire pour le peu de gens qui aiment sa musique. Le politique, lui, il a rincé tout le monde grâce aux institutions qu'il a fondées, rincé au terme de la thune, mais aussi rincé pas mal de gens en les écartant de la scène. Je me méfie toujours des vieux aigris qui se plaignent d'avoir été écartés souvent en écoutant leur musique. Je me dis « Ah ! Ah ! » Ah, d'accord. Après tout ça, je me dis que c'est quand même en partie grâce à lui que je peux écrire n'importe quelle merde qui fait biou, bam, tchouk, bam, tatata, schlop, et qu'on m'offrira une résidence dans un monastère désanctuarisé avec des petits pois bio et du sanglier faisant des. Merci, Boulez. C'est une critique et en même temps un remerciement. Bien entendu. Ce que je pourrais dire ensuite, Pierre Boulez était un homme de son temps. Pas avant, pas après. Il n'est plus contemporain comme sa musique. Il l'était dans une époque où l'argent pour la musique instrumentale coulait à flot pour lutter contre le communisme. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus. Mais une époque aussi où les médias créaient des statuts sacrés de n'importe qui voulait révolutionner, mais en faisant tourner les thunes, tourner les institutions, en glorifiant une Europe de l'avant-garde avec que des hommes blancs cis, pas hétéros dans ce cas-là, disons-le officiellement, en chemise et en petit veston avec leurs chaussures cirées. Je me mets moi-même dans la merde là. Bref, un chef d'orchestre, compositeur, politique, glorifié, on sait ce que ça provoque. Voilà, je pense, toutes autour de la table. Aujourd'hui, il n'y a plus de stars dans la musique dite contemporaine, et je me dis que c'est bien mieux comme ça. Il me semble qu'après toutes ces batailles pour savoir qui a raison, qui est le plus d'avant-garde, qui est le plus con, il serait temps de lire, d'écouter sa musique, mais aussi les anciens qui la font et qui les ont connus, et de se faire un avis soi-même, sans écouter n'importe quel chroniqueur payé au lance-pierre ou pas payé du tout dans mon cas. Pour l'anecdote, je buvais du thé avec un ancien de France Musique, Jean-Pierre Derrière, intime de Boulez. Il lui avait dit « Vous savez, Pierre, j'adore votre sonate numéro 2 ». Et Bobo lui répond « Alors écoutez la troisième, Jean-Pierre ». Bonne boutade. C'était une époque où tout le monde avait Pierre dans son prénom. La musique électronique émergeait, la musique élitiste devenait snob et sans renouveau. Les conservatoires conservaient trop. Les musiciens avaient la flemme et on il y a un truc qui est mal écrit. On basculait dans un monde où il fallait faire du fric à tout prix. Alors apparemment j'ai loupé une ligne. Je voudrais finir par dire tous les mouvements. Alors oui, ça c'est le seul truc important de ma chronique. Je voudrais finir. Tous les mouvements musicaux se font récupérer par les mouvements d'extrême droite, y compris la techno maintenant. Alors je suis le premier que ça scandalise. Et je me suis posé la question, est-ce que la musique sérielle se fera récupérer un jour par l'extrême droite? Et on verra, mais suite au prochain épisode. Et je propose de finir justement par cette sonate numéro 2. On va pas écouter la 3 ni la 2 en entière parce qu'elle dure 30 minutes. Mais c'est son centenaire, rendons-lui hommage, même s'il avait tous les défauts du monde et peu de qualité. Et voilà, je tenais à finir là-dessus.
Magnifique.
Mais on va finir ça là-dessus, je te laisse désannoncer.
Bah, merci Mickaël pour cette chronique consensuelle.
Et bravo à toi pour...
Merci. Et merci à Sophia. On l'embrasse.
Merci Sophia Vramidou. Merci Marie-Lou à la technique. Et Marlène
pour le sauvetage de dernière minute. Thank you.
Il est 22h.
We are Sex Bobon and we're here to make you think about death and get